Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous. Nous sommes contents d'être avec pour ce samedi 30 mars pour la réalisation de ce 14e numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekiluka. Il est consacré à l'apport des députés dans la résolution de la crise humanitaire et sécuritaire à Koundé dans la Namambéré après l'assassinat du maire de cette localité. En région, nous allons nous rendre à Ndjoukou dans la Kémoï et Berberati dans la Mambéré Kadé pour retrouver les députés de ces localités qui vont nous parler de la situation de leur zone électorale. La loi sur les communications électroniques revient encore avec Benjamin Kaigama, vice-président de la commission équipement et communication de l'Assemblée nationale. Nous sommes Déo Micro,
Joët Bagali
et Igor Jeskin Senapai. À la partie technique, nous avons Diane Bokula. Une petite pause et c'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekiluka. Joët Bagali, bonjour.
Bonjour Igor Jeskin Senapai, bonjour à tous nos auditeurs.
Comme je l'annonçais au sommaire, le président de l'Assemblée nationale, à la fois député de Babouan et trois autres de la région, se sont séjournés du 22 au 25 mars à Koundé, dans la Namambéré.
Oui, Igor, le but de ce déplacement était de palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire après l'assassinat de maire de cette localité, lequel assassinat a fragilisé la cohésion sociale et a provoqué le déplacement de plus de 4000 personnes vers d'autres localités. Moussa, Laurent Gondbaba.
J'ai saisi l'occasion pour rassembler la population, que ce soit à Béloko, à Baboua, dans les grands centres urbains, pour leur passer le message de la paix, pour les informer de ce que le gouvernement fait, notamment la signature de l'accord de Khartoum entre le gouvernement et le groupe armé. Et ce que nous attendons de cet accord, le rôle qui revient à l'Assemblée nationale, le rôle qui revient à la population, le rôle qui revient à chaque groupe armé. Aujourd'hui, je les ai rassurés que les différents groupes armés sont représentés au gouvernement. Ceci pour permettre d'œuvrer ensemble pour le retour de la paix. Et donc, j'ai lancé un appel pour le sens des retenues, un appel pour que chacun œuvre pour la paix. Il faut noter qu'il y a un déficit d'information. Tout ce que nous faisons à Bangui, ce qu'on appelle l'accord de Khartoum, je pense que c'est un son qui sonne seulement à Bangui ici. Et nous devons travailler, nous devons œuvrer pour que le dernier village de la République centrafricaine soit informé de ce que c'est que l'accord de Khartoum, de cette action qui se mène entre le gouvernement et le groupe armé, de ce que le chef de l'État fait avec le groupe armé. Il faut que la population le sache et il faut un travail d'information, de sensibilisation partout pour que l'accord de Khartoum soit bien connu, pour permettre également sa mise en œuvre dans les meilleures conditions. Voilà en gros le moment partagé avec la population dans la Namambéré, précisément dans la sous-préfecture de Baboua. Mais le meurtre du maire de Koundé n'a pas été le seul acte isolé. Au même moment, à la même date, les hommes armés ont abattu des paysans agriculteurs à 20 km de Boire, sur l'axe Bokaranga. C'est toujours la Namambéré. Dans un autre village, il y a eu un autre acte similaire. Ça se passe justement au moment où des efforts se font. Et c'est ce que je vous disais, il y a un déficit d'information. Pendant que ce travail se fait, il y a ces actes qui continuent à être commis. Et on s'interroge, est-ce que leur leader a la main mise sur ces éléments? Ça, on peut s'interroger. Sont-ils sous le contrôle des chefs à ce moment? Sont-ils informés de ce qui se fait? Et c'est pourquoi je dis, il est important que la sensibilisation commence très rapidement sur l'accord de Khartoum pour permettre, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de bien maîtriser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle accord de Khartoum. Et du côté du gouvernement, et du côté des groupes armés, il est prévu des mécanismes pour la sensibilisation. Et donc, il faut que ces mécanismes soient mis en place très rapidement pour vraiment amener, n'est-ce pas, les hommes armés à respecter, n'est-ce pas, la cessation des hostilités telles que proscrit par l'accord de Khartoum.
À propos de la nomination des chefs des groupes armés dans le gouvernement qui a suscité des réactions contradictoires, le président de l'Assemblée nationale estime qu'il ne relève pas du domaine du Parlement, mais plutôt de l'exécutif.
S'agissant de la composition du gouvernement et de l'effectif du gouvernement, il ne revient pas au Parlement de se prononcer sur cette question. C'est un domaine réservé à l'exécutif, plus précisément à son excellence, monsieur le président de la République. Effectivement, quand on met un gouvernement en place, il y a un impact financier, etc. Je suppose que tous les éléments ont été examinés pour mettre en place ce gouvernement. Mais il faut quand même comprendre aussi, c'est un gouvernement de circonstances, parce que l'accord de Khartoum est une exigence. Si le gouvernement et le groupe armé se sont engagés à s'accorder, il faudrait aussi aller dans le sens du respect. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre, de l'application de l'accord de Khartoum que ce gouvernement a été mis en place. Et donc, je dis tout simplement que toutes les mesures conséquentes seront prises pour la bonne marche de ce gouvernement. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous attendons à la déclaration de politique générale de ce gouvernement pour voir. Plutôt, ce n'est pas la qualité, mais plutôt le programme qui sera soumis. La déclaration, ce gouvernement est-il engagé réellement pour la mise en place d'un programme qui répond à l'accord de Khartoum, parce que l'accord de Khartoum prévoit des engagements. Les engagements tels que la politique, n'est-ce pas, de la répartition équitable des ressources au niveau de toutes les régions, des engagements tels que traiter, n'est-ce pas, le centrafricain, disons, l'inclusivité dans la gestion de la chose publique. Et ce sont ces éléments que nous aurons à apprécier à travers la déclaration de politique générale. Nous attendons ça et nous aurons à apprécier, à autoriser, parce que c'est à travers cette déclaration de politique générale que ce gouvernement aura ou non la confiance de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la nationalité, nous n'avons pas encore des éléments sur X ou Y membres du gouvernement qui seraient centrafricains, étrangers. Nous présumons que les membres du gouvernement, il s'agit d'un gouvernement d'une république, et nous présumons que les membres de ce gouvernement sont des centrafricains jusqu'à inscription de faux.
Maintenant, nous allons nous intéresser aux activités des députés dans leur zone électorale.
Tout à fait, Jean-Eudes, la circonscription électorale de Ndjoukou dans la Kémo est notre première destination. L'élu de la nation, Jean-Claude Komiassembia, de retour d'une mission parlementaire dans la localité, déplore les agissements des anti-baraka qui, selon lui, imposent des taxes irrégulières à la population.
J'étais convié à assister à cette mission juste pour constater et voir de visu l'insécurité qui nous a été imposée par certains compatriotes dans quelques secteurs de ma localité. Et à l'occasion de cette mission, nous avons pu mettre la main sur une forte quantité des objets qui avaient fait l'objet de pillages lors d'une arrestation, lors d'un arrimage de deux baleinières naviguant sur le fleuve Oubangui.
Précisément, quels sont ceux qui sont à l'origine de cette recrudescence de l'insécurité en Djoukou?
Aujourd'hui, tout le peuple centrafricain, le gouvernement est en train de faire des efforts pour que notre État puisse revenir dans la paix, pour que les paisibles citoyens puissent vivre dans la paix. Mais seulement que certains de nos compatriotes qui, à l'époque, avaient manœuvré pour que la paix puisse revenir, ce sont ceux-là qui reviennent aujourd'hui prendre en otage nos populations pour les asservir. Ce n'est rien d'autre que des étrangers, mais ce ne sont que certains véreux fils du pays qui, gagnés par l'envie de gain facile, ce sont ceux-là qui aujourd'hui cherchent à servir la population. Selon les informations mises à ma possession par la population, ce sont des éléments armés qui sont venus plus précisément de la Waka. Il y a un groupe qui est venu de Grimari et l'autre groupe serait venu des localités de Kwango et ils se sont coalisés pour pouvoir asservir ma population.
Qu'est-ce qu'ils font concrètement à la population?
Aujourd'hui, ils ont pris comme exemple ce que Ali Daras voulait imposer à la population de la Waka pour imposer à ma population de payer des taxes. Ce dont le peuple centrafricain était combattu, parce que lorsqu'on avait appris que Ali Daras voulait imposer à la population de la Waka de payer des taxes, je crois que toute la population centrafricaine s'était réunie pour pouvoir combattre cela. Donc aujourd'hui, dans ma localité, comme la localité est vide, il n'y a aucune force de défense là-bas, ils ont profiter de cette occasion pour imposer à la population de payer par maison. L'homme doit payer 1 000 francs et la femme doit payer 500 francs. Donc, c'est des taxes illégales qu'ils ont eu à imposer à la population en guise d'asservissement.
Igor, cette fois-ci à Berberati dans la Mambéré KDI, le député Andjiba Daguerre se réjouit de la fabrication d'un corbeillard artisanal en faveur de ses électeurs. Il déplore aussi les conditions d'études dans sa localité.
Vous savez, Berberati est entouré de sept sous-préfectures. Si nous parlons de Berberati, ça veut dire que si la paix règne à Berberati, ça devait aussi régner dans toute chaque sous-préfecture qui entoure la ville de Berberati. D'après ma vue, vous savez, pour un législateur, si nous venons à l'Assemblée, c'est pour discuter les choses, débattre les débats, voter les projets de loi. Et d'après notre retour dans nos zones respectives, nous devons restituer ça à nos populations. Et ce qui fait notre avantage à Berberati, c'est quoi? Parce que nous avons un radio communautaire qui s'appelle Radio Zoukpana. C'est à travers ça que nous avons chaque jour le débat sur cette radio et nos populations aussi nous appelle à la radio pour des débats houleux entre nous et la population. Si c'est pour les activités, je crois que j'avais eu l'idée d'investir un corbière traditionnel. Et au départ, ce n'était pas facile. Au départ, les gens mal parlaient de ça. Et c'est après maintenant que les gens ont vu que non, l'importance est là. L'importance maintenant, au lieu de porter les cadavres sur la moto, que de porter les cadavres sur les brancards, maintenant on utilise ces corbières traditionnelles là pour ramener les cadavres à la maison. Et je crois que c'est un très bon initiative de ma part.
Okay, aujourd'hui, quelle est la préoccupation de la population de Berberati sur les autres aspects?
La préoccupation de la population de Berberati est vaste. Vous savez, le gouvernement ne peut pas réparer tout en même fois. Donc si nous parlons de l'étude, vous savez que Berberati, il exploite des bois. Mais malheureusement, nos élèves sont mal entretenus, ils ne sont pas bien assis et l'éducation est en baisse dans la ville de Berberati. Pendant ce temps qu'il y a la société forestière qui est là, il y a la société minière qui est là. Juste, je déplore la manière que nos élèves s'assoient pour étudier.
Mais vous attendez quoi des autorités?
Ce que nous attendons des autorités est de que Berberati ne dépend même pas de Bangui. Si réellement parlant, la Berberati ne dépend pas de Bangui, il suffit que les autorités politico-administratives voient seulement les sociétés forestières sur place. Comme ça, eux-mêmes, ils vont répondre à nos difficultés.
Les trafiquants ont apprécié la rectification de la loi sur les communications électroniques. Nous les écoutons.
Moi, je dirais que c'est une bonne initiative que je peux apprécier à sa juste valeur parce que vous êtes sans ignorer que les coups d'État, les massacres qui s'effectuent en ce moment en République centrafricaine sont à la base de cet outil. Les gens restent à l'extérieur, soit à Bangui, ils communiquent sur l'Internet, ce qui aggrave la situation à laquelle nous sommes en train de vivre. Donc, moi, je dirais que ce projet est la bienvenue en République centrafricaine.
À mon avis, c'est une très bonne initiative et les députés ont bien choisi de voter cette loi. Et là, ça contribue dans l'intérêt commun des Centrafricains. Et ça nous permet d'être en sécurité, quoi. Parce qu'il y a des faux jeux qui se passent souvent en ligne électronique. Il faudrait que ça soit contrôlé. Donc, à mon avis, c'est une très bonne initiative.
Je pense que ce projet qui a été voté par le député de la Nation, je pense que c'est un bon projet. J'apprécie ça. C'est juste pour contrôler les communications, pour ne pas qu'il y ait beaucoup à rames, il y a des phénomènes, des terroristes qui filtre partout. Ça, là, ça permet d'empêcher même l'entrée des Boko Haram et des désordres dans le pays.
À mon avis, c'est une belle initiative parce que vous savez qu'à l'heure actuelle où le monde est en mutation totale, donc il faudrait que les États, surtout notre pays, s'engagent quand même à faire quelque chose comme ça.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Revenons cette fois-ci vers le député Benjamin Kaigama, vice-président de la commission équipement et communication, pour des précisions sur cette loi.
Bien avant cette adoption, la loi numéro 18-002 a été adoptée par la plénière. Et cette loi a fait l'objet de contradictions par la société Télécel qui avait déféré le département de postes et communications devant la Cour constitutionnelle. Mais l'avis de cette société a été débouté dans sa totalité. Mais la Cour constitutionnelle avait décidé pour la mise en conformité de cette loi par rapport à la Constitution. Donc voilà ce qui a été fait et la commission a été saisie pour la mise en conformité des trois articles. Donc en l'occurrence l'article 8, article 15 et article 16. Voilà ce qui a été fait dans le cadre de ce travail. Donc ce qui a été dit, l'article 8 ancien, il manquait ce qu'on appelle l'alinéa 2. Donc ancien, ça se stipule, à ce titre, il détermine la politique générale de développement du secteur. Mais la Cour constitutionnelle a reformulé pour que ça soit conforme avec la Constitution par ces termes suivants, à ce titre, il contribue à la détermination de la politique générale de développement du secteur. Et l'article 15 ancien, c'est seulement l'avis du ministre des Finances qu'il fallait compléter par avis du ministre des Finances dans la prise de décision. Donc, article 15 et 16, donc pour que ça soit conforme, il faut compléter l'ancien par sur avis conforme du ministre des Finances, comme ça concerne Finances. Ce projet de loi avait été voté par unanimité et à main levée. Donc, c'est pour montrer l'importance de cette loi dans l'économie du pays. Donc, c'est pourquoi les élus du peuple ont pris conscience pour que cette loi soit votée à l'unanimité parce que ça a l'importance pour l'économie, ça peut booster l'économie du pays.
Quelle serait la prochaine étape après l'adoption de ce projet de loi ?
Après l'adoption par la plénière, la prochaine étape c'est la promulgation par le président de la République. Donc nous allons transmettre cet amendement au bureau de l'Assemblée nationale qui va soumettre à la signature du président de la République pour la promulgation. Voilà les prochaines étapes de cette loi.
Vous écoutez toujours Radio Ndekiluka émettant sur les 100.9 FM. Nous allons terminer cette magazine avec la connaissance du terme incompatibilité parlementaire. Comme d'habitude, retrouvons Moussa Laurent Gonbaba, président de l'Assemblée nationale.
Le mandat de député, c'est un mandat très important qui nécessite des exigences. Et donc, on ne peut pas être à la fois député et faire n'importe quoi à côté aussi. C'est pourquoi la Constitution et la loi organique portant règlement intérieur sur l'Assemblée nationale ont défini ce qu'on appelle les incompatibilités. D'abord, vous savez, quand vous êtes député, le cas de fonctionnaire par exemple, lorsque vous êtes un fonctionnaire et que vous êtes élu député, alors vous êtes en position de détachement. Et donc, vous ne pouvez plus cumuler le mandat de député et continuer à exercer dans l'administration en tant que fonctionnaire parce que vous êtes payé par une caisse unique qui est la caisse de l'État, qui est le trésor public. On ne peut pas vous payer en tant que fonctionnaire d'un côté et aller vous payer en tant que député de l'autre. Et donc, vous perdez la qualité de fonctionnaire et vous redevenez purement et simplement député. Deuxième chose, lorsque vous êtes député, vous ne pouvez pas être en même temps député et membre du gouvernement. Voilà les incompatibilités. Et donc, si vous êtes député et que vous êtes nommé membre du gouvernement, vous avez à faire un choix. Si vous préférez aller au gouvernement, vous exprimez et vous restez au gouvernement, vous laissez donc vous céder votre place à l'Assemblée nationale à votre suppléant. Mais si vous pensez que vous préférez la fonction, le mandat de député, vous restez député et donc votre nom sera retiré de la liste du gouvernement.
Cette rubrique termine ce magazine parlementaire de la semaine. Tous nos remerciements à ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de Igor Jeskin Senapay et
Jean-Yves Bagali.
À la gestion numérique, nous avons Jeanne Bokula. Nous disons aussi merci à l'équipe de communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien et à la semaine.